France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Christophe Coin, je suis né à Caen en 1958. Je suis musicien, je joue en particulier le violoncelle, la viole de gambe, entre autres.
Vous allez terminer le conservatoire à 16 ans, vous êtes donc très jeune. André Navarra vous propose une année supplémentaire à Vienne. Le but de cette année supplémentaire, c'est quoi ? C'est de compléter un enseignement, peut-être, c'est quoi, de l'apprentissage de concerto, l'idée de passer
de
peut-être des concours, de faire plus de répertoires.
De faire des concours, de faire plus de répertoires, parce que j'étais rentré avec un bagage un peu trop insuffisant, ça c'est sûr.
Donc vous passez votre enfance à Caen, votre adolescence à Paris et votre jeunesse à Vienne.
Voilà.
Alors quand on arrive à Vienne, comment on se sent ? Qu'est-ce qu'on découvre ? Est-ce que l'allemand est une langue que vous parlez ? Est-ce que vous découvrez tout en même temps ?
Je ne parle pas allemand, effectivement, donc je suis des cours... Et puis Vienne n'est pas du tout la ville qu'on connaît aujourd'hui. C'était à l'époque, c'est une ville noire, les bâtiments sont tous noirs, il fait sombre, il n'y a pas un bon éclairage dans les rues, on rencontre que des vieux. Enfin, c'est pas du tout une ville agréable comme elle peut l'être aujourd'hui. Donc on travaille, quoi. C'est surtout ça. En plus, il fait froid l'hiver. Donc j'ai beaucoup plus travaillé dans cette année-là. Non seulement l'allemand, mais le violoncelle. Et puis j'allais quand même beaucoup au concert. Et là, j'ai commencé à aller à l'opéra parce qu'on avait des places au concert et à l'opéra très, très, très peu chères pour les étudiants. Donc on était debout, mais au moins j'ai entendu tous les Strauss et énormément de beaux concerts aussi au Musikverein.
Vienne, c'est quand même littérairement, musicalement, une ville, même picturalement, enfin pour les arts... Très inspirante, malgré la noirceur, le froid et le fait que vous ne parliez pas allemand. Dans quelle mesure les autres arts aussi vous nourrissent et vous inspirent à l'époque ?
Oui, parce que si on va au Kunstmuseum, on découvre quand même des très beaux Rembrandt, Rubens, etc. Enfin, énormément de choses, la peinture italienne aussi. Alors que quand j'étais à Paris, je n'allais pas tellement au Louvre. C'est peut-être le fait que la ville soit plus concentrée aussi qui fait qu'on va plus facilement à ces endroits ou au Belvédère, voir Klimt et Gonchil et tout ça. Donc ça, j'en ai bien profité, oui.
Et donc vous allez avoir une vie un peu schizophrénique. D'un côté Navarra et de l'autre côté la grande découverte de la musique ancienne.
Ouais, j'allais une fois par mois à la Scola, donc travailler en tant qu'externe avec Jordi Savall.
Ah oui, il faut que vous nous racontiez comment quand même. Comment est-ce que vous avez fini par le rencontrer, Jordi Savall ? Vous êtes allé à Bâle et vous avez passé un examen d'entrée ou comment les choses se sont passées
Ça,
avec
c'était
lui ?
Dans un deuxième temps, mais il a fallu que je l'approche d'abord. Donc c'est à travers cette exposition itinérante dans toute la France. Il est venu jouer à Caen, mais il n'avait pas le temps de m'écouter. Il est venu, je ne sais plus où, à Angers, il n'avait pas le temps de m'écouter. Enfin, j'ai fait comme ça 4-5 villes en le suivant. Et c'est à Nantes, je me rappelle, chez des amis qui le recevaient après à dîner. Je crois qu'on l'a carrément obligé à se mettre dans une pièce et à m'écouter jouer ma petite pièce de Quai d'Hervelois. Probablement assez minable, mais bon,
À la viole, alors ?
À la viole, oui. Et il a dit, bon, écoute, on fait un essai, tu viens à la Scola, puis on verra si c'est... Mais il était d'accord de me prendre, donc on peut dire que je lui ai forcé la main. Ça a été vraiment du rentre-dedans. Voilà.
Et parce que vous sentiez que c'était lui et pas un autre qu'il vous fallait ?
Je connaissais que lui, en fait. Moi, j'avais entendu que lui à la viole de gambe. Et voilà, je suis allé chez lui. J'imaginais pas quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'étais pas sûr que quelqu'un d'autre en joue. quand je suis arrivé à Bâle en quittant Vienne, c'était l'année où Rostropovitch faisait un stage de un mois. Il est resté un mois à Bâle pour faire une masterclass où il y avait des grands violoncellistes et je me suis inscrit. Donc là, c'était vraiment schizophrénique parce que je jouais chez Rostropovitch le matin et le soir, j'allais faire du concert de viol chez Jordi Savall. Là, ça, c'était un peu plus compliqué, mais j'étais assez facilement adaptable.
Qu'est-ce que vous en gardez de cette expérience de masterclass avec Rostropovitch ?
Il n'a pas joué une note de violoncelle. Il nous accompagnait au piano, tout par cœur. Il connaissait parfaitement tout le répertoire. Bon, c'était extrêmement intéressant, évidemment, pour tout ce qui est musique russe et tout ce qu'il a, je dirais pas pratiquement écrit, mais co-écrit en tout cas. Et ça, c'était vraiment la partie la plus fascinante du cours. Et puis son éveil, son énergie surtout, c'était quelqu'un. Bon, il y avait la grande salle de l'académie était pleine, hein, c'était pas des cours particuliers, donc il y avait forcément une part de spectacle aussi dans ces masterclass. Mais on en a tous bien profité. Et puis il y avait surtout la possibilité de jouer avec l'orchestre le soir, les concertos. Quoi.
Vous avez évoqué au début de notre rencontre le boom des violoncellistes avec l'arrivée de Rostropovitch. C'est vrai qu'il y a eu Casals, il y a eu Rostropovitch, et on a l'impression que c'est à ce moment-là que le violoncelliste est devenu soliste.
Je pense que le fait que la personnalité de Rostropovitch, son engagement politique et tout ça, ont fait qu'il est devenu aussi un artiste spécial dans le paysage.
Il a modifié beaucoup le paysage du violoncelle. Les violoncellistes se sont mis à fleurir.
À tout point de vue, et techniquement aussi. Quand on le voyait jouer avec sa longue pique, et pratiquement le violoncelle couché, on peut dire qu'entre Casals et Rostropovitch, il y a plus de différence dans l'évolution de la technique qu'entre Boccherini et Casals. Donc Rostropovitch a vraiment révolutionné l'instrument, qui est devenu pratiquement un autre instrument.
Si on parle un instant de la littérature pour violoncelle, c'est à quel moment qu'on va se mettre à monter dans les positions, à utiliser le pouce et du même coup à faire que le violoncelle prend une place plus soliste peut-être?
C'est déjà, je pense, assez tôt dans le 18e siècle. Quelques virtuoses italiens se sont attelés à sortir l'instrument de son rôle de basse, d'accompagnement et de support, quoi, et le faire devenir un instrument soliste qui, malheureusement, a accompagné ça d'un massacre de lutherie parce qu'il a fallu rapetisser les instruments pour pouvoir justement passer plus facilement dans les positions hautes et des violoncelles des grands maîtres comme Amati, même Stradivarius, Guarnerius, ont pratiquement tous été recoupés pendant le XVIIIe siècle pour faciliter justement ce jeu soliste. Et l'avantage par rapport au complexe qu'on avait du violoniste, qui joue avec quatre doigts et se déplace facilement, a été sublimé par le fait qu'en mettant le pouce, on pouvait jouer avec cinq doigts et non pas quatre. Donc on dépassait les violonistes. Et ça, c'était merveilleux, c'était un plaisir. Comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc, les grands violoncellistes s'en sont bien, bien servis.
On parle un petit peu de technique, le son c'est quand même l'archet, non ? Véritablement, qui le fait ?
Pas seulement, c'est assez étonnant cette histoire de son, parce que je remarque en enseignant que la chose que vous arrivez le moins à influencer chez un élève, c'est le son. C'est quelque chose qui touche tellement à la personnalité profonde, aussi au potentiel physique, je ne sais pas, il y a probablement des histoires de résonance. même un instrument mécanique comme le piano, et qui est énorme, qui est un monstre. Vous avez parfois des gens qui s'assoient devant un piano et ils ont un toucher qui est unique. Donc ça tient à quoi, ça? C'est quand même mystérieux. Parfois même, je prends des pincettes pour parler de ça aux élèves parce que je sens que ça peut provoquer même des frustrations, des bouleversements un peu difficiles à vivre.
Parce que le son, on l'a ou on l'a pas, enfin en tout cas on a le sien?
C'est un peu comme ça, oui.
Donc ça... les élèves qui rentrent dans une classe rentrent avec un son, sortent avec le même son. Ils ont pu changer d'autres choses?
Non, on peut être influencé, mais je pense, comme je l'ai dit au début, que la vraie influence quand même vient par le fait de jouer, d'imiter, de plus que par le côté intellectuel ou explicatif, ou même si ça peut aider évidemment. Mais... D'ailleurs, les professeurs de chant, parce que la voix, c'est quand même un instrument complexe à définir et à expliquer, vous diront tous, c'est difficile d'expliquer ça, une technique, enfin de la transmettre à cause de ça. S'il n'y a pas un minimum d'adhésion et d'instinct de la part de l'étudiant, c'est difficile de changer ça.
Quand vous dites que vous avez peur de temps en temps, vous marchez sur des œufs, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus intime, en fait.
Exactement, oui. Donc, c'est pas sans danger.
Vous avez jamais eu peur pour votre son?
Ah si, tout le temps. Puis il y a des moments où on le perd, c'est un peu comme la voix, où on n'est pas en forme. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les maîtres anciens insistaient tellement sur les sons filés, commencer par les sons filés, des cordes à vide, etc. C'est comme un peintre travaille sa palette, et ses mixtures et ses pigments avant de commencer à travailler sur la toile. C'est une préparation qui est rituelle mais importante.
France Musique, les grands entretiens de Christophe Coin.
Quand on joue du violoncelle et puis on adjoint la viole de gambe et puis d'autres de la famille, la question du vibrato, elle se pose aussi. Est-ce que les instruments vous font repenser le vibrato chez chacun des instruments, je veux dire?
Alors moi, je me suis jamais... obligé à me frustrer et à jouer sans vibrato, par exemple. C'est un concept intellectuel qui m'est complètement étranger. Et d'ailleurs, si vous ouvrez une méthode, la méthode Leub avec laquelle j'ai appris le violoncelle, il parle pas du vibrato. Pourtant, probablement, ce monsieur vibrait peut-être plus qu'on pense ou qu'on aimerait. Donc, le vibrato, tellement personnel, intime, et d'ailleurs, les bons professeurs savent qu'il faut pas pousser l'élève. Le vibrato, ça vient au moment où ça vient. C'est comme la puberté. Voilà, tout d'un coup, l'élève éprouve le besoin de vibrer, et c'est magnifique, mais... Donc de dire à un élève, maintenant tu fais de la musique baroque, tu vas plus vibrer, ça me paraît une castration assez épouvantable et qui probablement n'a jamais eu lieu. Il y a eu probablement, comme dit Léopold Mozart, des violonistes qui ont la danse de Saint-Guy et agitent la main. Donc il y a toujours eu des gens qui ont trop vibré ou mal vibré. Mais l'instrument lui-même va vous dire comment le traiter. Par exemple, si je joue des cordes métal, je vais instinctivement vibrer beaucoup plus parce que le son me paraît pas assez chaleureux, beaucoup plus froid, moins d'harmonique aiguë. Et donc, automatiquement, on compense en vibrant. Donc, ce serait idiot de dire il faut pas vibrer parce que c'est instinctivement contre-productif. Et par contre, il y a des musiques ou des tempéraments qui fait que on éprouve moins le besoin de vibrato. Donc je pense que c'est là aussi, c'est comme la sonorité, c'est quelque chose avec lequel il faut faire attention parce que Ça suffit pas d'être un chef et de dire, mesdames, messieurs, vous êtes un orchestre moderne, maintenant vous jouez du Carl Philipp Emanuel Bach, il faut plus vibrer. C'est foutu d'avance. C'est...
Avec Jordi Savall, alors comment il se passe à partir du moment où vous arrivez à Bâle? C'est aussi une autre culture, hein. C'est complètement différent. Qu'est-ce que ça ajoute à votre pratique?
D'abord, une découverte de répertoire, tout un panel de musique que je ne connaissais pas. La musique du consort de viol, par exemple, qui est une musique extraordinaire. Oui, équivalente presque à ce que je connaissais dans le quatuor à cordes ou le quintet à cordes, mais dans un répertoire plus ancien, mais avec une richesse de contrepoint que j'imaginais pas. Donc, il y a d'abord ça, et puis le fait que Jordi m'a assez vite invité à participer à des enregistrements, à participer au groupe Espérion 20 ou enregistrer les pièces à deux viols de Marin Marais. Enfin, donc il m'a fait confiance ou lui faire le continuo dans un disque Forqueray. Enfin, il a délégué assez vite avec moi des choses qui m'ont marqué et qui m'ont fait complètement repenser ma vision de la musique. À tel point d'ailleurs que j'ai un peu renié à l'époque tout le répertoire romantique. Je trouvais trop égocentrique, trop bêtement passionné. Enfin, on a des a priori comme ça. Quand on est jeune, on est très jusqu'au boutiste. Et je m'interdisais presque de jouer ce répertoire. Pour moi, c'était plus que le vibrato, c'était plutôt ça. C'était des choix de répertoire, parce que peut-être je sentais que je pouvais pas être spécialiste en tout, donc je m'obligeais à me spécialiser pendant un temps.
Mais vous diriez qu'il y a plus de pudeur dans la musique ancienne ?
C'est différent. C'est, disons que c'est pas les mêmes sentiments qui sont exacerbés, mais on imagine à un certain moment que cette musique-là va être plus saine. C'est une question presque de hygiène musicale, mais on dépasse vite cette phase, heureusement.
Et la viole et le violoncelle ne comblent pas les mêmes émotions?
Non, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que de temps en temps, je suis plus versé vers la viole, de temps en temps plus versé vers le violoncelle.
Comment on pourrait caractériser ce que ça va chercher?
Le violoncelle a plus de tripes, ça accroche plus au ventre. La viole touche un peu plus des couches supérieures de la sensibilité, de l'âme. Je sais pas, c'est différent. C'est un instrument en apparence fragile qui en fait l'est pas du tout si on sait le prendre. Il a une possibilité d'expression illimité, sauf qu'il n'est pas fait pour sonner aussi fort qu'un violoncelle, mais on peut jouer aussi fort qu'un violoncelle, peut-être voire plus, sans le violer, c'est le cas de le dire, mais on peut aussi le violer beaucoup plus vite si on ne sait pas le prendre. Donc c'est, là aussi, c'est de nouveau le chemin étroit, quoi. C'est ça qui est beau dans la viole, c'est que c'est un peu tout ou rien, quoi. On travaille plus dans la résonance de l'instrument, c'est-à-dire moins. On va plus chercher à l'intérieur du son pour modeler les différents ornements, les différents mélismes du phrasé. C'est comme dans le chant baroque, en fait.
Et quand on joue de la viole, on ne joue pas du tout du violoncelle. Et quand on joue du violoncelle, on ne joue pas du tout de la viole. Je veux dire, c'est quand même deux instruments qui sont extrêmement différents.
Moi, j'ai la chance de jouer les deux, donc si vous voulez, j'essaye pas d'imiter l'un avec l'autre. Contrairement à peut-être à.
Ce que je veux dire, c'est que la viole, elle est aussi proche du luth.
Oui, absolument.
Peut-être plus que du violoncelle.
Oui, il y a une parenté évidente. D'ailleurs, autrefois, beaucoup de grands luthistes ou théorbistes jouaient aussi de la viole et vice-versa. Donc, c'est moins tout au premier degré que peut-être qu'au violoncelle. Et c'est ça qui fait le charme et la poésie de cet instrument.
On a le sentiment, Christophe Coin, que votre vie de musicien, elle a commencé comme ça, tout naturellement, tout en douceur, sans peut-être vraiment s'en rendre compte, en jouant avec Jordi Savall, en enregistrant avec Christopher Good, en jouant dans le Concertus Musicus avec Arnoncourt. Tout ça s'est fait avec grand naturel. Il n'y a pas eu de césure, de cassure, à un moment, la fin des études qui sonne le début d'une vie professionnelle et des concours. Non, vous avez fondu les choses, peut-être sans vous en rendre compte.
Les concours internationaux, je les ai mis un peu de côté, il faut dire. J'avais pas l'esprit à ça. Et je voulais pas non plus rentrer dans un orchestre. Ça aurait été le rêve de ma mère que je rentre à l'orchestre de Paris, mais c'était pas pour moi, quoi. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire une fois un remplacement au dernier pupitre dirigé par Pierre Boulez. Je préfère ça tous les 15 jours, mais je sais que c'était pas une vie pour moi, c'était pas mon chemin, quoi.
Vous dites c'était le rêve de votre mère. Comment ils ont pris votre vie de musicien, vos parents d'ailleurs?
Chaque fois de manière catastrophique, c'est-à-dire abandonner entre guillemets le violoncelle pour faire de la viole, on comprend pas. Ensuite, ne plus jouer de la viole et reprendre le violoncelle, on comprend pas non plus. Enfin, c'était toujours un peu des zigzags perturbants pour les gens qui suivent pas le mouvement de l'intérieur.
Et vous voir sur scène,
C'était aussi une catastrophe parce que de toute façon. Il y aurait forcément quelque chose qui n'allait pas. J'ai eu ce genre de poids. Certains artistes l'écrivent dans leur mémoire aussi. On monte sur scène pour prouver à sa mère qu'on est capable de tenir bon, quoi. Donc il y a des parents qui sont... À la fois, ils ne m'ont pas du tout empêché. Ils ne m'ont pas non plus poussé. Elle était discrète et elle se serait jamais permis d'intervenir, mais en même temps, la confiance, c'est quelque chose de à la fois fierté et manque de confiance qui font que c'est un mélange difficile parfois à assumer pour un jeune.
C'est sur cette rare soirée d'hiver de Félicien David par l'ensemble baroque de Limoges que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec Christophe Coin. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Yves Lors, mixage Éric Villenfin, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.